dans cet épisode du balado compte complet.
Les partants qui vont loin, c'est cinq manches. On est rendu là dans notre langage, là. Mais ouais. C'est un peu ça, Alain. Ouais. Si on va chercher des retraits additionnels en sixième, tant mieux. Mais si on y va joueur par joueur en relève, j'aille pas du tout ce que les Dodgers offrent. Moi, ce qui m'inquiète, ouais. c'est le nombre de manches qu'on va être obligé de les utiliser.
En jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet. Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. Reste deux équipes en série mondiale. Marc, les Yankees de New York et les Dodgers de Los Angeles. Écoute, Marc, on va commencer tout de suite en analysant ces deux équipes. On va en parler pendant la majeure partie de ce balado. On va revenir, bien sûr, un peu plus tard sur les séries de championnat. Deux équipes qui s'amènent avec certaines journées de congé. Je pense, Marc, ça va faire du bien au spectacle. Parce que, faut bien le mentionner, là, les matchs ont été de façon inhabituelle pendant les séries. Encore pire que ce qu'on a vu. Je pense qu'il y a eu une coupure nette avec les années passées. Je pense que de voir les équipes reposer, ça va nous donner un meilleur spectacle.
Oui, absolument. C'est sûr que ça ne ramènera pas Tyler Glasnow, par exemple, mais ça reste qu'effectivement, on a vu un changement. Je pense que c'est la phrase clé que tu viens de mentionner, c'est que cette année, le changement a été clair. L'utilisation des lanceurs partants. Et enlève le fait qu'il y a des lanceurs partants blessés, là, juste le fait que les partants ne vont pas très loin. Ça change complètement la dynamique de la chose. Donc, c'est effectivement ces journées de congé-là, la série mondiale qui vont donc s'amorcer ce vendredi. Ça va faire effectivement le plus grand bien, probablement surtout aux Dodgers. Oui, les Yankees ont été hypothéqués là, dans la série de championnat un peu, mais c'est vrai qu'on va remettre les batteries, on va les remplir là, ces batteries-là parce que ça s'annonce comme une série qui pourrait être très longue selon moi. Mais le constat qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, ça va être beaucoup de lanceurs utilisés, même si les partants, par exemple, des Yankees, qui sont un petit peu plus solides à ce niveau-là, là, en termes de stabilité, là, ça va être très différent.
Marc, il y en a plusieurs qui limitent sans arrière-pensée, mais qui pensent que ça va se décider dans la lutte. Des gros frappeurs, le haut de la formation des Dodgers contre le haut de la formation des Yankees. Pas besoin de nommer. Bon, regarde, Otani avec Betts. Freeman, c'est un point d'interrogation. Contre l'autre côté, Judge, Soto, puis là, on peut peut-être ajouter Stanton. On n'est pas loin de la vérité, Marc, en pensant que c'est peut-être là que ça va se décider.
Tout à fait. Écoute, ça va être vraiment excitant. C'est un match d'étoiles. En fait, ça va être 6 ou 7 matchs d'étoiles. Regarde ça comme tu veux, là. Ça va être extraordinaire. Mais attention, Alain, qui a été nommé le joueur par excellence dans la série de championnat de Ligue nationale? C'est Tommy Edman. Tu sais, je veux dire, puis là, tu as vu que Teoscar a finalement frappé des coups sûrs dans le dernier match. Même Will Smith, il est allé d'un coup de circuit. Et moi, je veux dire que oui, la tension va être autour de ces gars-là, inévitablement. Puis inévitablement, on va voir probablement des coups spectaculaires comme on a vu avec Soto et Stanton du côté de l'Américaine. Mais tu sais, je regardais ça ce matin de 1 à 9. Tu sais, tu as vu, Verdugo a connu des bonnes séries, en tout cas selon moi, là, a connu des bonnes séries. Tu sais, un gars comme Volpe peut devenir un joueur important. Fait en série mondiale, tu as besoin de tes 9. C'est sûr que c'est spectaculaire. On ne se cachera pas. Là. C'est une des rares séries mondiales qu'on a vues. T'sais, Alain, on pourrait débattre, là, mais on a probablement là, 4 des 6, 7 meilleurs joueurs du baseball. Là, on pourrait même dire 6 des 10 meilleurs joueurs de baseball en ce moment qui vont s'affronter en série mondiale. T'sais, je veux dire, pour ça, là, on va être gâtés. Là.
Ouais, ben, les fans, je pense que c'est ça que vous voulez. Regarde, il y a deux noms, là, Otani contre Judge. Il y en a plusieurs qui pensent que ça va se décider aussi si on réduit encore, Marc, le bassin de joueurs. Là. Certains prétendent que le joueur des deux qui va laisser sa marque va peut-être être auréolé à la fin de la saison comme ayant réussi et l'autre comme ayant failli à la tâche, compte tenu de la saison régulière qu'ils ont. C'est beaucoup de pression sur ces deux joueurs-là.
Énorme. Mais c'est la beauté de la chose. Ça serait. Écoute, là tu vas dire, là, tu vas dire que tu exagères un peu, mais imagine-toi si Otani avait pu lancer en plus. Ça aurait été extraordinaire avec un Otani qui arrive en fin de match qui affronte un Aaron Judge avec une situation critique. Mais bon, ça va être quand même fort excitant. Je ne sais pas, Alain, au point où est-ce que le joueur va avoir échoué. Le joueur va avoir échoué si ce joueur-là est, tu sais, je sais pas, moi, il est 1 en 25 en série mondiale. Mais tu sais, si le gars, il frappe, mais son équipe perd, tu sais, ça va être dur de blâmer. Fait qu'on va attendre un petit peu à ce niveau-là. Mais chose certaine, on a parmi les meilleurs vendeurs, si vous voulez, de ce sport-là dans cette série-là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui déteste les Yankees. Il y a des gens qui détestent les Dodgers. Mais ça reste que c'est une série qui, sur le terrain, j'ai l'impression là, qu'on va voir quelque chose. Le spectacle va être à la hauteur, ça, c'est certain.
Écoute, on va regarder ces deux équipes-là, Marc. Tu as parlé de Tommy Edman tantôt, puis il mérite son titre de joueur le plus utile à son équipe là, de la série de championnat. Celui qui aurait pu être là avant que le match commence, celui qui avait le plus aidé son équipe au bâton, c'était Max Muncy, qui a été le deuxième dans les moments cruciaux avec les Dodgers de Los Angeles. Le retour de Muncy, Marc, ça consolide un peu ce qu'on a dit sur les Dodgers tout le long de la saison, comment il avait manqué à cette équipe-là en milieu de saison, même si les trois premiers frappeurs ont quand même transporté cette équipe-là pendant un bon moment. À cause de ça, à l'attaque, je donne un léger avantage aux Dodgers de Los Angeles. Honnêtement, en regardant ça, là, puis tu ajoutes Kiké Hernandez qui, en série, produit presque toujours. Je suis obligé de donner l'avantage à l'attaque aux Dodgers.
Bon, écoute, surtout, on parlait des jours de congé, si ça peut faire en sorte que Freddie Freeman est pas mal plus en santé en série mondiale, là, je suis d'accord avec toi. Pas par une grande marge, par contre, mais tu sais, les Mets sont arrivés avec quand même de bons lanceurs, puis on a marqué des points à la tonne du côté des Dodgers. Puis tu as raison de souligner un gars comme Muncy. Ça, là, pour un lanceur adverse, pour une équipe adverse, là, lui, là, c'est vraiment plate. Là. J'allais dire une expression qu'il ne faut pas que je dise, mais tu comprends, c'est que lui soutient des buts sur balle, ce sont des lancers additionnels, ce sont des présences au bâton qui sont fatigantes, dans tous les sens du terme. C'est fatigant parce qu'on a besoin de plusieurs lancers. Il a de la puissance, donc de temps en temps, si t'en échappes une, il peut te faire mal. Et c'est effectivement, ça ajoute à la profondeur des Dodgers. Tu as tout à fait raison de mentionner Kiké Hernandez. Moi, j'irais même jusqu'à dire Chris Taylor en série. Tu regardes en saison, ça a été difficile. On était même allé chercher Bijou à un moment donné parce qu'on n'était pas certain. Mais en série, c'est un gars qui a toujours produit aussi. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler. La clé va peut-être être Freddie Freeman. Si Freddie Freeman est en santé, Pascalin. On a parlé des lanceurs gauchers en relève. Là, tu vas me dire que Tim Hill a fait du bon travail et effectivement, il a fait du très bon travail. Mais là, sur un 4-7 qui risque de s'étirer un peu, Otani est gaucher, Freddie Freeman est gaucher. Alors, les bons frappeurs, il y a les Betts qui est droitier, je comprends, là, mais le fait qu'on ait quand même des bons lanceurs, des bons frappeurs gauchers du côté des Dodgers, ça pourrait aussi les avantager. Compte tenu du fait que c'est peut-être un petit côté plus fragile là, du côté des Yankees.
Bon, justement, on va parler du monticule. Marc, t'évalues comment les deux personnels de lanceurs? Chez les Dodgers, là, écoute, c'est match, c'est géré au retrait près. C'est pas compliqué, là. Il n'y a pas de lanceur partant présentement qui se démarque chez les Dodgers.
Donc, avantage Yankees. Tu parlais avantage Dodgers au niveau de l'attaque. Moi, je pense qu'il y a un avantage Yankees. Il n'y a pas de Garrett Cole de l'autre côté. Il n'y en a pas. Puis, tu sais, il n'y a pas de Carlos Rodon non plus. Puis là, on pourrait vraiment débattre, Schmidt et Gill par la suite. Fait que les Yankees ont un avantage. Plus de manches lancées par leurs partants, tu sais, va aider les Yankees de New York. J'aime le personnel de releveur des Dodgers. Tu sais, écoute, le Trinan arrive, puis Hudson arrive, puis tu sais, mais est-ce qu'on va pouvoir les faire lancer autant de manches, puis surtout, bon, que la série... Là, il y a une journée de congé après le match 2, puis une journée de congé après le match 5. Alors, tu sais, Avantage Yankees à ce niveau-là, si les partants vont loin. Les partants qui vont loin, c'est 5 manches. On est rendu là dans notre langage, là. Mais oui. C'est un peu ça, Alain. Oui. Si on va chercher des retraits additionnels en 6e, tant mieux. Mais si on y va joueur par joueur en relève, j'aille pas du tout ce que les Dodgers offrent. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le nombre de manches qu'on va être obligé de les utiliser. La marge, je pense que la marge, si tu compares l'attaque au lanceur, c'est que la marge est supérieure aux Yankees du côté de lanceur, selon moi, que la marge de l'attaque des Dodgers vis-à-vis des Yankees. Mm-hmm.
Écoute, Marc, ce qui est inquiétant du côté des Dodgers puis au Monticule, et tu l'as vu le tableau comme moi avant les séries, c'est oui, la relève va être sollicitée, mais Marc, plus on voit le même lanceur souvent, puis tu sais, c'est deux équipes qui ont des profils qui se ressemblent. On a vu le nombre de tirs que les Yankees ont provoqué de la part des lanceurs adverses depuis le début des séries. J'ai l'impression que plus la série va avancer, plus les releveurs vont être exposés et plus ça va être dangereux pour les Dodgers. Et tu as raison de dire, le fait qu'on ait des partants qui sont capables de lancer plus de manches, ça va grandement favoriser les Yankees de New York. Puis le dernier aspect, Marc, juste sur les Yankees, le fait qu'on commence au Dodger Stadium, t'aimerais commencer à domicile, mais Garrett Cole est meilleur à l'étranger. Donc, il commence au Dodger Stadium, sur son terrain, c'est un gars de la Californie. Je pense que ça va favoriser les Yankees.
Ben absolument. Surtout que pour que les Dodgers passent à travers cette série-là, il va falloir une surprise au Monticule. Est-ce que c'est Yamamoto qui va nous sortir une coupe de départ qu'on ne s'attendait pas? Sinon, il y a des gros points d'interrogation. Et c'est là. C'est pour ça que là, on n'a pas parlé de la défense. La défense, on a vu à quel point Alain, ça joue un rôle important. T'sais, l'erreur de Rocchio, ça a éliminé carrément les Guardians. Ouais. Je dis pas qu'il aurait gagné la série s'il avait gagné ce match-là, mais ça les a éliminés, certes. J'aille pas ce que je vois du côté des Dodgers en défense comparativement à ce que je vois du côté des Yankees. Ceci étant dit, je pense que les Yankees peuvent se raplomber. Là, il y a eu des ennuis, surtout au premier but. Là, je ne sais pas ce qui est passé avec Bertie et Rizzo. Ça peut s'arranger de ce côté-là. Mais je pense qu'il y a peut-être un petit avantage là, du côté des Dodgers à ce niveau-là. Est-ce que ce sera suffisant? On verra, Alain, mais c'est certes, je sais qu'on parle beaucoup de puissance avec les gars qu'on a mentionnés. Puis bon, évidemment, l'avantage des lanceurs aux Yankees. Mais souvent, on laisse trop de côté la défense qui peut avoir un aspect, surtout là, je m'attends pas à ce que ça soit une série comme on l'a vu entre les Mets et les Dodgers avec des écarts de 6 points pratiquement dans tous les matchs. Je pense qu'on va garder ça le plus serré possible, même si ça peut être un haut pointage. Ça peut être un haut pointage, mais serré quand même.
Bon, Marc, faut se mouiller, c'est la tradition. je te laisse aller pour tes prédictions pour cette série mondiale en premier, j'irai par la suite.
Ben, vous savez, moi, les prédictions, si on n'était pas obligé d'en faire, j'en ferais pas. Mais
c'est ça. C'est pour ça que je parle d'un jeu, Marc.
Écoute, c'est sûr que je pense toujours un petit peu du côté des Dodgers pour, évidemment, la relation que j'ai avec cette organisation-là.
Ben oui.
Mais je crois quand même que l'attaque va en donner suffisamment, ce que j'ai vu dans la série face aux Mets. Ben oui. Mais comme je dis souvent, Alain, je m'attends à une très longue série. Je pense pas que ça se termine en 5 ou 6. Je pense que ça va aller à la limite. Tu vas me dire à la limite, ça sera pas un avantage pour les Dodgers. Tu as probablement raison. Oui. Mais je vais y aller avec les Dodgers en 7. Je suis juste content, comme amateur de baseball, là, je parle pas d'être un expert ou un analyste, mais comme amateur de baseball, je suis juste content qu'on ait cette série-là. Parce que c'est la crème de la crème. Là, je parle pas de masse salariale, je parle juste du fait que sur le terrain, on va avoir un très, très bon spectacle. Et dans ce cas-ci, c'est pour ça qu'on est gagnant, selon moi. Mais s'il faut que je me mouille, je vais dire Dodgers en 7.
Bon, c'est à mon tour, Marc. Je vais prendre les Yankees. Écoute, si on écoute nos balados de milieu de saison, Marc, les Yankees, évidemment, allaient très bien. Puis on se disait qui va rejoindre les Yankees. Même on ne savait pas si Baltimore était pour être au niveau des Yankees de New York. Finalement, Baltimore s'est fait battre avant de trouver les Yankees sur leur chemin. Et moi, je vais avec les Yankees de New York pour les raisons que j'ai énoncées tantôt, Marc. Je pense que la relève des Dodgers va s'essouffler en cours de route. Là. Puis, au fur et à mesure qu'ils vont être exposés, ça va être de plus en plus difficile. Écoute, je vais vraiment me tremper, Marc. Je ne suis pas sûr qu'on va retourner à Los Angeles pour les matchs 6 et 7. Ouais. Donc, ça fait que j'y vais. Ah, c'est pas un souhait, loin de là. On souhaite une longue série, mais je crains juste que le personnel des lanceurs des Dodgers s'essouffle. Puis, en raison de ça, bon, évidemment, Stanton, est-ce qu'il va continuer sur sa poussée? Là, il y a quelques journées de congé. On sait comment qu'il y a des montagnes russes dans son cas. Donc, ça pourrait changer bien des choses. Mais pour l'instant, j'y vais avec les Yankees en 5. Mais comme je dis, c'est pas un souhait.
Non, puis c'est correct, Alain, c'est parfait. C'est la beauté de la chose. Ouais. Moi, le fait, c'est que je trouve que malgré... que les Guardians ont vraiment pas frappé. Là. Je veux dire, tu regardes le nombre de coureurs laissés sur les buts. T'sais, on a quand même, là, tu me dis, ça s'est terminé rapidement en 5, mais on était dans le coup chez les Guardians sans vraiment avoir frappé, sans avoir un Ramirez frappé. On était dans le coup. Alors, je me dis, de l'autre côté, puis on s'entend que les lanceurs partants du côté de Cleveland, ça n'était pas leur force non plus. Donc, c'est pour ça que je penche un peu du côté des Dodgers, c'est que je pense que l'attaque va vraiment être en mesure de produire un petit peu plus.
Ouais.
Et à ce moment-là, ben, faire en sorte que les partants des Dodgers n'auront peut-être pas l'effet escompté là, sur la série.
Bon, c'est le temps de la question de la semaine présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Donc, ce qu'on vous demande, est-ce que ça vous plaît de voir ces deux équipes en série mondiale? C'est des équipes qui sont très polarisantes. On en parlera un petit peu plus tard. Envoyez-nous vos commentaires à propos de cette question qui paraît sur notre site complet.com ou encore sur notre page Facebook. facebook.com/complet/balado.
Je vous rappelle notre partenaire principal, notre commanditaire, le plan de match. Plan de match est à boutique à Boucherville. J'y suis présentement. Alors là, je sais que c'est l'automne, mais c'est temps déjà de se préparer pour le printemps. Alors, si vous avez besoin d'équipement, ben c'est la place. C'est à Boucherville. Cage de frappeur également, cours privé. Allez sur leur boutique en ligne également. Et je vous rappelle notre site Internet. Pour nous rejoindre facilement, savoir où nous écouter ou nous regarder, c'est le www.comptecomplet.com.
Bon, Marc, on va revenir sur les séries de championnat. On va commencer par la Ligue américaine, Cleveland contre les Yankees de New York. Il y a quelques instants, tu as indiqué justement que Cleveland aurait pu gagner des trois matchs à Cleveland. Ça n'en prenait pas beaucoup. Et peut-être une des clés, ça a été le fait que José Ramirez n'a pas été capable de contribuer offensivement à la cause des Guardians. Ça a coûté très cher à l'équipe.
Puis ça, Alain, tu regardais la série avant que ça commence. Il fallait que ça soit du baseball parfait de Cleveland. T'sais, si on voulait battre les Yankees de New York. Ça voulait dire quoi, ça, du baseball parfait? Ben, c'est d'avoir un support d'attaque avec un Ramirez et un Naylor. Ça veut dire d'attraper la balle, de pas donner des retraits additionnels aux Yankees. Là, tu comprends? On n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre du côté Cleveland. Puis là, on a été exposé. On a laissé des frappeurs additionnels se présenter au bâton. On a vu ce que ça donnait avec Juan Soto, qui a été une des présences au bâton les plus spectaculaires que j'ai vues depuis fort longtemps. Donc, ça a coûté cher. Mais ça a été serré, fait que ça n'aurait pas pris grand-chose pour que Cleveland puisse passer au travers les Yankees, ou en tout cas certainement étirer cette série-là. On voit que les gens disent « ben oui, les Yankees, c'est la grosse machine, c'est la masse salariale », mais je vous dis que Cleveland n'était pas si loin de d'étirer ça encore plus. C'est juste, si on avait joué du baseball un petit peu plus propre.
Oui. En défense particulièrement, tu as mentionné l'erreur de Rocchio. L'autre aspect, Marc, je ne sais pas si on doit remettre en question l'utilisation des lanceurs pendant cette série-là par les Guardians, parce que faut bien mentionner ce qui était la force de l'équipe. À la fin, on était à plat. C'est pas compliqué, là. On a vu la tenue d'un peu tout le monde. Presque tout le monde a failli à un moment à un autre. Et dans des moments importants, que ce soit Gaddis, Smith à la fin, dont la vélocité est baissée, classique, on n'a pas reconnu le classé dominant de saison régulière. Marc, ta force, il faut que tu l'utilises, je n'ose pas dire de façon intelligente, parce que je pense que c'est ça qu'on a essayé du côté, mais on n'a pas utilisé nos lanceurs de façon optimale. Ça me semble une évidence.
Exact. On ne pouvait pas soutenir le lot de travail qu'on donnait à ces gars-là. Je pense que Smith a été l'exemple le plus flagrant. dans le cas des manuels classés, ça n'a pas bien été. On s'entend, là, je ne sais pas si c'était la nervosité, c'était sur la grande scène du baseball, ou les Yankees étaient juste mieux préparés, mais ça aussi, c'est un autre aspect. On parle de Ramirez en attaque, mais classé, évidemment, ça a été une grande déception en relève. Mais Smith, on l'a vu tellement dominant dans le début de série de division, en début de série de championnat. Mais là, tu as vu, à un moment donné, le nombre de manches ou de tirs, puis là, jour après jour après jour, il y a eu une baisse flagrante de 3, parfois même 4 000 à l'heure. Alors, un petit peu moins de mordant sur la rapide, un petit peu moins efficace sur la balle front. Paf, gros coup de circuit de 3 points de Stanton contre Smith. Ça a basculé même un peu la série à ce niveau-là. Il a été très bon en saison, très bon en série, mais effectivement, on pouvait pas soutenir cette manière de gérer. Puis tu sais, j'ose imaginer que si on avait réussi à passer au travers les Yankees, ça aurait été quoi encore par la suite? À un moment donné, il y a une limite. C'est pour ça que ce que l'on voit, Alain, c'est différent des autres années. Mais j'ai l'impression que là, il va falloir faire nos devoirs un petit peu plus. On n'aura pas le choix. Il va falloir développer des lanceurs partants. La mentalité, la façon qu'on utilise les lanceurs, Alain, devra changer. Il va falloir revenir à des gars qui lancent au moins 6 manches. Mm-hmm. Tu sais, parce que sinon, ça ne tiendra pas la route, là. Ça ne pourra pas tenir la route. Ouais. Pas avec un calendrier comme ça. Mm-hmm. Pas avec des séries qui s'étirent comme ça jusqu'à fin octobre, début novembre. Je me demande comment qu'on va pouvoir trouver une solution, mais il va falloir le faire. Mm-hmm.
Est-ce que les Guardians, dans le fond, n'ont pas perdu, c'est pas la série, mais ils ne sont pas arrivés qu'une main dans le dos en raison du fait qu'ils ont joué 5 matchs précédemment contre les Tigers de Détroit? Ben, là aussi, Marc, les partants ne sont pas allés loin.
Ben, c'est clair, ça s'accumule tout ça. Là. C'est absolument. Puis si tu avais eu des partants, Bybee avait été bien, bien solide, puis que chaque gars avait donné là, son 5-6 manches, là, comme on pense, ben, là, tu économises. Mais écoute, les Smith arrivaient en 5e manche. Normalement, Smith arrive en 7e, puis tu as un gars en 8e, puis tu as classé en 9e. Mais là, on amenait ces gars-là très tôt. Puis je peux comprendre Steven Vogt, il voulait gagner le match qui se déroule devant lui. Ouais. Mais à un moment donné, c'est juste que le bras peut pas suivre là, le lot de travail qu'on leur donnait. Fait que oui, Alain, c'était certainement un aspect de voir. Les Yankees souhaitaient probablement que la série entre les Dangerous et les Mets s'en aille en 7 matchs pour qu'on étire ça encore plus puis qu'on utilise encore plus d'énergie au niveau du personnel de lanceurs.
Oui. Marc, perspective Cleveland, là, ce qu'on a vu cette année, c'était surprenant. Il n'y a pas de raison que les releveurs ne puissent pas revenir, nonobstant des blessures. Les partants vont être capables d'en donner plus. Marc, je ne peux pas croire qu'on va passer 2 années de suite comme ça avec des partants, que ce soit non productifs ou encore en raison de blessures. Je pense que l'avenir est rose. À l'attaque, on aura besoin de mieux entourer les Naylor, Ramirez et Kwan. Il y a de quoi être, je pense, optimiste côté de Cleveland. On a vu des gars, Manzardo, moi j'ai adoré ce que j'ai vu de lui. Le seul problème, c'est que c'est un frappeur de choix ou un joueur de premier but. Dans les deux cas, on a déjà quelqu'un, à moins qu'on décide de ramener David Fry comme leur deuxième receveur. Là, c'est une autre histoire. John Kensi Noël, j'ai l'impression qu'à moins d'avoir un camp d'entraînement tout croche, c'est lui qui va jouer au champ droit l'année prochaine. Donc, il y a quand même quelques options, mais moi, les deux noms que je retiens à l'attaque, si on a besoin d'aide, c'est Manzardo et Noël.
Ben, tu as raison de dire que ça regarde bien. C'est une belle organisation. On va aller chercher, si jamais on a des problèmes, on va trouver une solution pour les lanceurs partants. Mais la base est solide, là. Tu sais, Steven Kwan, je m'excuse comme premier frappeur. C'est excellent. Ouais. Ramirez, encore une saison près de 40-40. Ça n'a pas été des bonnes séries, mais tu sais, c'est un gars qui peut surprendre drôlement. Il y a quelque chose à faire. Il va falloir que l'année prochaine, qu'on travaille fort parce qu'on a vu que Kansas City s'est amélioré, Détroit s'est amélioré, les Twins ont déçu, mais bon, on verra ce qui va se passer avec les Twins si jamais la franchise est vendue, là, mais ce sera pas une division si c'est facile que ça l'année prochaine. Au contraire, ça va être une division qui va être très, très active là, dans le monde du baseball.
Ouais. Maintenant, la Ligue nationale, Marc, les Mets de New York ont poussé ça en 6 matchs. Saison extrêmement surprenante du côté des Mets de New York. On a un portefeuille très épais, probablement le propriétaire le plus riche de tout le baseball majeur. même que certains prétendent que Soto pourrait être la première cible de Steve Cohen, ce qui est pas peu dire. Il y a beaucoup de joueurs autonomes qui s'en viennent. On peut analyser ça comme on veut, Marc. Du côté de Cleveland, on sait que la plupart des joueurs vont revenir. C'est pas le cas des Mets de New York. Là. Écoute, la plupart de nos gros lanceurs partants deviennent joueurs autonomes. Pete Alonso devient joueur autonome. Il y a quelques vétérans aussi qui s'en vont. Mais il y a quand même des jeunes qui s'en viennent et on se préparait pour 2025. Donc, moi, j'ai l'impression que les Mets vont être de gros, gros joueurs dans les semaines à venir.
Bien, en tout cas, ce qui est un peu plate du côté des Mets, c'est qu'on a vraiment senti, évidemment, rappelle-toi, là, ils ont joué le programme double là, contre les Braves. Après ça, ça a été, victoire spectaculaire là, victoire spectaculaire contre Milwaukee. Ça s'est poursuivi. Tu sais, vraiment, on a éliminé les Phillies. Fait que on a vu une équipe très unie. On a parlé beaucoup, là, t'écoutais les gars, là, c'est une famille ici, je vais toujours me rappeler de ça. C'est vrai, là, quand tu le vis ensemble, ouais, c'est vrai. Mais là, ça sera peut-être pas la même équipe qu'on va voir. Qu'est-ce qui va arriver avec Alonso? Tu l'as dit, là, il y a un paquet de dossiers à régler. Tout le monde, tu sais, j'écoutais, tu sais, Winker veut revenir, J.D. Martinez veut revenir, mais est-ce qu'il va y avoir de la place pour tous ces gars-là? Je sais pas. J'ai bien aimé la magie créée par Lindor en particulier. C'est Lindor qui a semblé vraiment réveiller les troupes. Il y a eu plein de bonnes choses. Je suis content pour les Mets, Alain. Ça a été une belle saison. Il n'y a pas eu de controverse, il n'y a pas eu de chicane, il n'y a pas eu de choses négatives. Ça a été positif. Mm-hmm. On a offert aux spectateurs un spectacle tout à fait extraordinaire. Fait que, il y a des choses le fun, mais j'ai peur, moi, souvent, que quand il y a trop de changements dans une équipe, puis je comprends qu'il va y en avoir, là, que ça ne peut pas recréer la même magie. On verra bien, mais chose certaine, bravo aux Mets de New York pour une belle saison.
Oui, absolument. Et moi, en tout cas, je prévois que ça va être extrêmement actif de ce côté sur le marché des joueurs autonomes dans l'entre-saison, compte tenu des ambitions de Steve Cohen, qui n'a pas l'intention de regarder les Braves et les Phillies de s'envoler comme ça là, avec le talent. Là. Bon, c'est le temps de la carte de la semaine et il y a une thématique, c'est une présentation de cartes-union-dépôt.ca, votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. C'est une carte qui date de 1970, la numéro 38. C'est une série sur les séries mondiales qui a été émise par la compagnie FLIR. Donc, ce qu'on a fait, ce sont des cartes thématiques sur les séries mondiales, chacune des séries mondiales entre 1903 et 1969. Chacune des 66 séries mondiales pendant cette période-là. Et on a retenu celle de 1941. Pourquoi 1941? C'est la première série mondiale entre les Dodgers de Brooklyn et, qui sont devenus par la suite les Dodgers de Los Angeles, et les Yankees de New York. Pour la forme, les Yankees avaient remporté cette série, comme la grande majorité des séries mondiales entre les deux équipes jusqu'en 1955. Et Marc, écoute, pour la forme, dans cette série-là, elle est marquée par, tu parlais de l'importance de la défense, là. Les Yankees, dans le quatrième match, menaient 2-1 dans la série. On est en neuvième manche, 2 points d'avance pour les Yankees, 2 retraits, 2 prises sur le frappeur. 3e prise, le match est terminé, non. Le receveur Mickey Owen échappe la balle, le gars sera au premier, pif, paf, pouf, les Yankees prennent les devants en 9e, les Dodgers ont pu jamais revenir d'arrière dans le reste de la série. Ça prend pas grand-chose, Marc, rendu à ce niveau et rendu là dans les séries. C'était en 1941. Hugh Casey était le lanceur. Et Marc, il y en a qui ont fait des recherches. Certains prétendent que c'est le receveur qui aurait dû capter la balle. D'autres disent que le tir de Hugh Casey était probablement pas légal. Et que ça a déjoué le receveur autant que le frappeur. Mystère et boule de gomme. Probablement que le lanceur et le receveur sont partis dans leur tombe avec le secret dans leur tête. Marc, on va revenir sur la série mondiale Dodgers-Yankees. C'est une série polarisante. Pourquoi? Ce sont deux grosses organisations avec des portefeuilles très épais dans les deux cas. Ce sont des équipes qui sont suivies par de nombreux amateurs. Pour les Dodgers, c'est pour des raisons historiques. Marc, c'est jamais complètement parti. Les plus vieux me parlent encore des Royaux, et là je parle des octogénaires et plus, à qui j'ai l'occasion de parler de temps à autre. Les Yankees, ben Marc, New York a toujours eu une fascination, qu'on les aime ou non. Écoute, on peut parler d'un paquet de choses, et effectivement, des portefeuilles épais, mais c'est quand même, dans le cas des Yankees, la première fois en 15 ans qu'on se rend en série mondiale, Et dans le cas de ces deux équipes-là particulières, une contre l'autre, ça fait 40 ans et plus que ce n'est pas arrivé.
Ouais, c'est ça un peu qui me fait rire. Je sais que, évidemment, le sport et l'argent, ça vient ensemble, puis il y a les puristes de l'époque qui disaient, tu sais, lorsqu'on jouait dans les années 80, c'était pas nécessairement pour le salaire, c'était pour, bon. Mais ça reste que, je sais que le baseball a des choses à régler, il n'y a pas de plafond ou plancher salarial. Mais ça reste une série tout à fait extraordinaire, et tu l'as dit, Alain, depuis 2009, les Yankees n'ont pas été en série mondiale. Fait qu'on a beau avoir de l'argent, ce n'est pas une science exacte. Et la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, tu viens de le dire aussi, c'est 1981. Ouais. Alors, je pense qu'on était mûrs pour avoir une série mondiale entre ces deux équipes-là. Ce sont les équipes qui ont probablement parmi les plus grands, un plus grand bassin. Le marché, il n'est pas juste New York. On s'entend pour les Yankees. La même chose du côté des Dodgers. Ouais. Puis là, tu couvres côte est, côte ouest. Mmh. Alors, c'est sûr qu'en termes d'intérêt, même si les gens détestent ces deux équipes-là, on va regarder la série selon moi. Tu sais, parce qu'il y a une curiosité. C'est Ohtani contre Judge. C'est Stanton contre Mookie Betts. Tu comprends? Il y a quelque chose là, de tout à fait spectaculaire entre ces deux équipes-là. Tu sais, je sais que ces deux organisations qui ont des pouvoirs financiers énormes, mais tu regardes quand même au fil du temps, Alain, puis on en a parlé souvent, les Dodgers ont développé leurs joueurs, donc ils ont un système, un réseau de filiales. Tu sais, est-ce que c'est vraiment juste de dire qu'on achète des championnats malgré les moyens financiers, parce qu'on pourrait regarder, il y a bien des organisations qui en ont de l'argent puis qui n'en gagnent pas de championnat non plus. Je pense qu'il faut apprécier le talent des deux organisations en termes de développement, en termes de repêchage. C'est pas parfait, là. Regarde, on l'a dit, les Yankees n'ont pas été là depuis 2009 en série mondiale. Mais il y a toujours des surprises. On développe des joueurs qui allaient moins bien ailleurs, puis on les amène, puis là, soudainement, ils débloquent. Il y a beaucoup de choses positives. Il faut juste pas toujours se mettre la tête dans le sable, ils ont de l'argent, puis c'est pas juste. Il y a d'autres choses pour bâtir une équipe gagnante, puis je pense que les Yankees et les Dodgers ont fait quand même du bon travail. C'est pas parfait, là, mais ça a été du bon travail au fil du temps.
Ben écoute, on a souvent parlé du parallèle, Marc, entre les deux équipes, mais en tout cas, on l'a souligné sur la façon dont les releveurs sont développés. Et quand je parle développer, c'est pas à l'intérieur de l'organisation. Comment on va chercher des actifs ailleurs, puis là, on les amène, et là, on en fait des membres importants du personnel de releveurs. Là. C'est une recette qui a été, adoptée en premier par les Rays de Tampa. Bon, Andrew Friedman est parti de Tampa à adopter cette recette-là avec les Dodgers de Los Angeles. Je regarde le personnel de releveurs, Marc. Jamais les Dodgers auraient donné 20 millions à un releveur numéro 1. Je m'excuse, là, mais si on le fait à un moment donné, c'est parce qu'on va avoir du change de trop. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Là où ça m'inquiète un peu pour les Dodgers, Marc, c'est juste que je trouve que les releveurs, il y en a pas mal qui sont passés 30 ans. Là. Les Trinan, les Hudson, Brazier, j'ai l'impression que ça peut être essoufflé à la fin de la série. Moi, je trouve que les Yankees sont peut-être en meilleure position. Je sais pas combien de balles le rapide Kenley va lancer au cours de la série. Ça fait longtemps qu'il n'en a pas lancé une. Il y a un paquet de choses que les deux équipes font. Puis oui, la masse salariale est là, Marc. Puis peut-être que je prêche pour ma paroisse, mais il ne faut pas oublier que c'est deux des équipes qui dépensent le plus au deuxième étage.
Ben, exact. Dans le développement des joueurs, dans des départements de statistiques avancées, là, pour que on va se le dire.
Ben oui.
Mais c'est bon pour le baseball quand même. Regarde, on a suivi les expos pendant tant d'années. On aime toujours ça des négligés. On aime ça des équipes de petits marchés qui causent une surprise. Je suis partisan de ça. Mais je trouve qu'on était quand même mûrs cette année pour voir là, les deux grandes organisations s'affronter. Surtout, avec l'ajout d'Ohtani avec les Yankees, une autre saison extraordinaire de Aaron Judge. Stanton qui se réveille en série, qui devient le Stanton des beaux jours. T'sais, la table est mise pour un spectacle tout à fait, extraordinaire. Puis je pense que c'est là qu'il faut, comme partisan de sport, pas juste de baseball, mais de sport, ça va être suivi. Même ceux qui ne suivent pas le baseball majeur, on connaît les Yankees puis on connaît les Dodgers. Je pense que ça va être très rassembleur. J'espère évidemment que le spectacle va être à la hauteur là, des attentes, mais c'est une bonne chose pour le baseball, surtout si la série s'étire le plus loin possible.
On souhaite la bonne balle, Marc. Moi, j'espère effectivement qu'on ait de tout dans cette série-là. Bon, des lanceurs qui s'illustrent, des moments de tension. On a tout ce qu'il faut pour avoir une très, très bonne série mondiale. Mais ça se joue sur le terrain, Marc. Plein de choses peuvent arriver. Ça se peut que ça se finisse en 4. C'est pas un souhait. C'est deux équipes qui ont beaucoup de fierté, qui ont appris à gagner cette année. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rendu là du côté des Yankees, du côté des Dodgers. Il y a des vétérans qui connaissent le tabac. Donc, effectivement, je pense que cette série mondiale-là, c'est un cadeau aux partisans de baseball. Quant à tout le reste qui l'entoure, on pourra en discuter éventuellement. Mais je pense qu'il faut s'arrêter sur le moment présent et apprécier ce qu'on a devant nous.
Oui, exact. Puis de focusser vraiment sur le spectacle.
Ouais.
Et non d'encore arriver et dire, ben là, tu sais, Otani fait 700 millions puis tout ça. On comprend tout ça. Je n'ai pas de problème. Puis qu'est-ce que Juan Soto va faire? Ça va coûter combien? Puis c'est sûr qu'on va pouvoir en discuter. Mais entre-temps, il faut apprécier. T'sais, ce que Juan Soto a fait là, en série de championnat, Alain, son circuit, là, avec la façon dont son approche au bâton... T'sais, il affrontait un bon lanceur. Tu regardes les statistiques de Gallis en saison. Je veux dire, ce gars-là était très bon. Ce que Soto a fait, c'est... Alors, des moments comme ça, j'ai l'impression qu'on va en voir quelques-uns au cours de cette prochaine série mondiale-là.
Ben, c'est à souhaiter. Maintenant, c'est le temps de vous présenter l'horaire des matchs de cette série mondiale présentée par la boutique des fans, votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection à Hawkesbury, en plus de vous offrir des cartes Pokémon Magic the Gathering et des figurines Funko Pop. Je vous invite à consulter laboutiquedesfans.ca. Ça commence vendredi, le 25 octobre. On sera là à compter 19h30 avec notre équipe en studio, de même que moi et Marc sur place. C'est le match numéro 1 en direct du Dodger Stadium, 19h30. Le reste des matchs à 20h, sinon le match numéro 3, samedi 20h. Le premier match au stade des Yankees, ce sera 19h30. Le 28 octobre, match numéro 4, dès le lendemain, le 20 mardi. Par la suite, mercredi, le troisième match disputé au Yankee Stadium, match numéro 5. Tout ça pour se terminer vendredi et samedi suivant, s'il a lieu au stade des Dodgers de Los Angeles. Voilà, la table est mise. J'espère qu'on aura un très, très bon spectacle. Tout est là. On a des acteurs, les acteurs principaux, probablement les plus belles étoiles, sont comparses du cinéma avec de bons acteurs de soutien. Donc, on se souhaite un très, très bon spectacle. On a très hâte d'être là pour vous, moi et Marc. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville. Fier partenaire de votre passion.